Bienvenue au Polysécur épisode PME. Je suis avec Emeline.
Bonjour.
Bon matin.
Oui, matin pour nous, toujours.
Ben oui. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité des transactions en ligne et peut-être avec une plus forte tendance vers les virements qui sont vraiment le modèle largement utilisé à l'heure actuelle pour transférer des fonds, autant d'en recevoir que d'en envoyer. Et les malveillants n'ont pas laissé passer l'occasion de venir nous chercher de l'argent de cette façon-là. Je vais te laisser m'introduire le sujet.
Eh oui, certainement. Puis d'ailleurs, au moment où est-ce qu'on enregistre, on est au mois de mars et c'est le mois de la prévention de la fraude. Donc, on trouvait intéressant, pertinent de pouvoir aborder ça parce que généralement, les sous, on aime bien quand ils sont dans nos poches, pas dans la poche des autres, nos sous. Donc, c'est un petit peu l'idée. Virement Interact, tu le sais, Nicolas Loïc, de mon côté, j'ai travaillé un petit moment à la Banque nationale au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Et j'en ai vu une panoplie de nouveaux stratagèmes que je suis comme « Ah bon ?» Coudonc, ça existe, ça, je ne le savais pas. et de voir, je voulais aussi amener cette plus-value-là à nos auditeurs, de voir mais comment ça se passe dans le domaine bancaire aussi, au niveau des remboursements, au niveau quand on se fait frauder, parce qu'on est habitué avec nos cartes de crédit, de dire, ah ben quand il y a eu une fraude sur notre carte de crédit, il y a les assurances qui embarquent, puis là, on rembourse. Ce n'est pas toujours la même chose avec les virements Interact, c'est pas le même, ça ne fonctionne pas de la même façon, donc de voir comment ça fonctionne tout ça aussi. Est-ce que tu as un gros volume de virements Interact de ton côté qui rentre ou qui sort ou pas nécessairement, ça ne te touche pas tant que ça?
Je m'en sers un peu. J'ai certains fournisseurs qui ont commencé à utiliser cette approche-là pour se faire payer au lieu de faire un chèque ou faire de payer de d'autres façons. Puis dans mon entourage immédiat, généralement, c'est le moyen le plus rapide pour transférer des fonds à du monde qu'on connaît. Pour ceux qui sont plus vieux, PayPal servait à ce genre de choses-là anciennement. Maintenant, le système bancaire s'est adapté et justement a permis le transfert interne. Fait que oui, j'utilise avec les forces et les faiblesses que ça contient comme moyen. Je ne suis pas toujours nécessairement confortable avec comment c'est fait, mais au minimum, ça permet une fluidité des transactions, là.
Exact, puis je serais vraiment intéressée à avoir justement toi aussi ton point de vue sur le plus, le moins, parce qu'il y en a toujours, hein, on le répète souvent, mais la sécurité à 100% n'existe pas. Et il y a toujours des portes d'entrée possibles, puis c'est à nous de faire nos devoirs, de choisir les outils qu'on veut utiliser, dans quel contexte, puis d'aller chercher cette balance, d'aller faire certains compromis-là. Donc, les virements Interact, vous en doutez, ne sont pas infaillibles. Mon courriel, mon texto peut être piraté. Peut être intercepté, ça on en a déjà parlé brièvement aussi, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une réponse à la question secrète qui est évidente? C'est là que je veux nous amener un petit peu. Dernièrement, j'ai une cliente qui m'a envoyé un virement Interact et la question c'était « c'est quoi mon prénom ?» Et la réponse c'était son prénom. C'est pas très sécuritaire, c'est pas très secret comme réponse. Dernièrement, j'ai quelqu'un aussi qui m'a envoyé un virement Interact qui me dit « est-ce que tu veux ton cash ?» Et la réponse c'était « oui ». Donc, c'est vraiment l'idée que je veux amener de se forcer un petit peu parce qu'on a des outils qui sont à notre disposition et c'est un petit peu de notre devoir aussi, d'une certaine façon, de les maintenir en sécurité parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Typiquement, pareil, la réponse Paris à la question « Quelle est la capitale de la France ?» c'est pas très secret. J'ai même déjà vu des personnes qui sont dans le domaine du coaching qui, leur réponse, c'est coaching et la question, c'est service rendu. C'est pas très secret non plus, surtout quand on sait que, souvenez-vous, notre identité numérique, toutes les pièces de notre puzzle qu'on disperse en ligne, si ça renvoie directement sur notre coaching, sur notre groupe de coaching, sur une page Facebook peut-être, c'est pas évident non plus. Moi, j'ai déjà vu même des groupes Facebook où est-ce que c'était pour, admettons, je sais pas moi, un événement sur l'heure du lunch. Puis là, c'était un groupe Facebook. Puis la question et la réponse secrète étaient directement intégrées sur le groupe ou même sur des factures. Est-ce que ça te dit quelque chose? T'as déjà vu ça? Des factures que tu reçois? Puis pour le virement Interact, envoyé à telle adresse, telle question, telle réponse. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette pratique?
J'ai déjà vu ça chez un fournisseur d'entretien paysager. C'est sa stratégie qu'il a utilisée. Le problème avec ça, c'est que Il s'agit qu'un malveillant prenne contrôle de la boîte courriel de la personne ou de la compagnie. Et là, il va être capable d'intercepter les paiements. Fait que là, ça, c'est pour un fournisseur comme ça, ben là, il s'expose. C'est pas anodin de mettre cette information-là parce qu'ensuite, on connaît généralement l'adresse courriel. Fait que là, on est capable de s'attaquer. Si généralement, c'est du Gmail en plus, parce que c'est pas des gens, c'est pas des grosses compagnies, c'est des petites PME, très petites PME. Donc, eux autres n'ont pas nécessairement les moyens, la compréhension qui est associée avec ça. Fait que là, à ce moment-là, si le mot de passe est faible comme ça pour le transfert, il est à figurer que le mot de passe pour l'accès au compte est tout aussi faible. Donc, en ce moment-là, c'est un problème où là, cette personne-là va perdre des revenus parce qu'elle va se faire intercepter, elle va se faire voler. L'embarras est autant chez le fournisseur que chez le payeur, parce que le fournisseur va être fâché parce qu'il n'a pas l'argent. Il va probablement revenir contre le payeur, puis là, mais c'est pas la faute du payeur d'avoir pris des questions aussi disons, déficientes.
Oui, exact. C'est tout l'enjeu quand on utilise des questions-réponses faussement secrètes. Ben, le fraudeur a toute l'information pour répondre et réceptionner les fonds. Et justement, j'amène la petite notion bancaire aussi. Qu'est-ce qui arrive si j'ai adopté un niveau de sécurité faible et que là, arrive le malheur, arrive le moment où je me fais pirater ma boîte courriel puis que les virements Interac sont déposés ailleurs que sur mon compte à moi, ben c'est possible que la banque me tienne responsable en cas de fraude si les réponses étaient trop évidentes, trop connues. Parce que si c'est la première fois que ça arrive, qu'elle soit indulgente puis qu'elle rembourse, parce que bon, ça peut arriver et puis on fait un petit coaching par rapport à ça, mais si c'est à répétition, si le comportement ne change pas dans le temps et que ça réarrive, la banque pourrait vraiment tenir le client responsable. Alors là, c'est la bonne question de dire lequel on tient responsable, celui qui a émis ou celui qui réceptionne. Ça dépend un petit peu toujours aussi, est-ce que c'est les instructions viennent de la personne qui réceptionne ou non. Est-ce que t'as déjà vu, c'est pas si vieux, ça a peut-être un an et demi, plutôt cette option-là, et c'est pas toutes les banques qui l'offrent, le dépôt automatique, que à un moment donné, même encore pas plus tard qu'hier, j'envoie un virement Interac à quelqu'un et j'ai une notification avec Tangerine que il n'y a pas besoin de mettre de questions-réponses secrètes, que c'est directement déposé sur le compte de la personne. Donc le dépôt automatique, vaut mieux pas se tromper, mais est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, cette notion de dépôt automatique? Parce qu'il n'y a plus de gestion de questions-réponses secrètes. C'est vraiment, hop, j'envoie un virement à ce numéro, à cette adresse courriel. Puis eux, dans les systèmes, ils ont déjà authentifié la personne, puis ils savent exactement vers quel compte bancaire peut déposer. Ça te dit quelque chose?
Non, j'ai pas ça dans les options dans mes services bancaires. En tout cas, du moins, je l'ai pas remarqué aussi. Là, ça se peut, je suis pas très grand utilisateur. Puis, quand on fait ça par automatisme, les nouvelles options m'apparaissent pas toujours en premier lieu. Ça ressemble beaucoup à du transfert bancaire conventionnel, non Interac à ce moment-là. Je fais des transferts de façon directe avec certains membres de ma famille. Ben, on a nos numéros de compte inscrits, fait qu'on fait des transferts directs. Ça l'enlève tout le volet question-réponse. C'est sûr que j'ai la responsabilité de vérifier que c'est le bon compte dans lequel c'est dirigé, mais ça l'enlève toute la vulnérabilité de la capacité à intercepter à un moment donné ou à un autre le chemin. Là, c'est sûr que ça demande plus d'efforts. Là, je sais pas dans quelle mesure les choses sont vérifiées chez Tangerine, comme tu mentionnes, où tu peux justement le faire comme ça. J'imagine qu'en arrière-plan, ils font la conversion de l'adresse courriel en numéro de compte, puis ça se fait de façon automatique, donc sans question à ce moment-là. Fait que là, ça devient invisible pour le malveillant. Je ne sais pas comment celui-ci pourrait s'inscrire dans la transaction pour venir intercepter comme il ferait avec une chose plus conventionnelle, avec un courriel qu'on reçoit, on clique sur le URL, on tombe sur la page, puis on dit à quel moment on veut, où on veut collecter l'argent qui nous est envoyé. Là. Fait que c'est à la fin, mais ça ressemble pour moi plus du conventionnel, puis ça semble être un peu moins risqué.
Ouais, je te rejoins beaucoup pour ça, parce que les virements conventionnels vont avoir certaines limites aussi. Normalement, faut être la même institution financière ou d'autres limites de ce type-là, indépendamment de la banque aussi. Mais donc il y a cette possibilité-là, mais comme on disait, bon, typiquement, je pense que de souvenir, RBC, TD, Tangerine l'offre, Desjardins ne l'offre pas. Banque Nationale, je crois qu'ils ne l'offrent pas, mais ça va s'en venir. C'est des nouvelles fonctionnalités qui sont là depuis quelques temps, mais qui évoluent aussi à travers tout ça. Donc, en attendant, Je vous donne un petit peu de solution quand même. Comment on fait en attendant que ben, on est encore obligé de créer une question-réponse secrète? Comment on fait pour créer quelque chose de réellement secret? Évidemment, pensez au mot de passe en fait. Pas choisir une question qui peut être répondue après avoir effectué une brève recherche sur Internet, comme une question portant sur un événement d'actualité, un événement sportif, un endroit géographique. C'est pas une bonne idée. De pas choisir aussi une question dont la réponse pourrait être devinée de façon intuitive. Je sais pas moi, de quelle couleur est une banane? Non, ça peut être deviné. Y aller privilégier une question qui est secrète, quelque chose qui est connu uniquement des deux individus, un souvenir gardé entre vous et le destinataire. Ça, c'est dans l'idéal. Mais on s'entend qu'avec des clients, on n'a pas tant de souvenirs non plus. Mais on pourrait, sinon, il y a toujours le moyen de contacter le destinataire par un autre mode de communication. Donc, envoyer le virement Interac par courriel, typiquement. Généralement, on est notifié par courriel le plus souvent. Et d'envoyer la réponse secrète par un autre mode de communication. Idéalement, sinon ça peut être encore plus cool. Puis je fais du pouce à un des épisodes qu'on a enregistré ensemble. Ça pourrait être par signal. Signal qui, en plus, va être chiffré de bout en bout. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode si ça pique votre curiosité. Par texto, c'est pas la best practice, mais c'est quand même déjà mieux que de renvoyer le mot de passe par courriel directement. Même vecteur de communication, c'est très, très difficile. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Est-ce que ça te parle?
Effectivement, tu disais un mode de communication, ce qu'on pourrait appeler hors ligne, qui n'est pas le même modèle de communication pour transmettre l'information. Puis à la limite, rendu là, c'est que la question n'a aucun lien avec la réponse, c'est-à-dire que la question, elle est factice puisque la réponse a déjà été convenue avec le destinataire à ce moment-là, qu'on a communiqué par un autre canal. Fait qu'à ce moment-là, on se retire complètement du chemin de potentiel que le malveillant prenne contrôle de la boîte courriel et vienne intercepter les paiements à ce moment-là. Fait que c'est une belle stratégie, puis c'est toujours comme ça qu'on suggère justement de couper le lien entre dans le monde plus conventionnel et corporatif, l'usager et le mot de passe. Donc, on fait couper le lien entre les deux informations, justement pour pas que ce soit facile pour un malveillant de venir la deviner ou la trouver d'une façon fortuite, mais facile.
Oui, mais c'est un petit peu, si je nous renvoie à l'époque, même si on en reçoit encore, mais du courrier à la maison. T'sais, on recevait une nouvelle carte de crédit, mais on recevait pas la carte de crédit et le NEP dans une même communication. C'était deux communications distinctes, donc ça amène des enjeux. Pareil, parce que c'est deux envois par le même mode de communication à des moments différents, mais c'est quand même toujours mieux que de mettre tout à la même place, au même endroit. On facilite la vie de nos amis les fraudeurs et à ce moment-là, on est une cible facile puisque ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler. Je vais vouloir aussi vous parler aussi d'une nouvelle fonctionnalité qui est la demande de transfert de fonds. Mais avant ça, je veux insister aussi sur le fait que oui, on a du pouvoir, nous, les virements Interac, comment on les envoie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fraudes par virement Interac aussi. C'est les textos, justement, Vidéotron qui renvoient un certain montant, vous avez payé en trop, cliquez ici pour déposer les fonds. Typiquement, c'est clairement des scams. Pareil pour Hydro-Québec, c'est la période des impôts aussi. L'ARC ne vous enverra pas de virement Interac. Donc, faites attention avant de vouloir déposer des sous parce que c'est donc cool de recevoir des sous, right? Mais faire attention. Est-ce que ça nous met en péril? Puis généralement, il n'y a pas de sous à la clé non plus derrière. Donc, très, très réputé, très connu. Pareil, j'ai déjà entendu des histoires d'horreur avec des virements Interac, exemple sur Kijiji. Je vends mon téléphone sur Kijiji, puis là, la personne, je la rencontre en vrai, dans la vraie vie, admettons. Je la rencontre dans la vraie vie, on se voit, on se croise, enfin, on se rencontre à une station de métro, et elle m'envoie un virement Interac pour le paiement du téléphone. Et bon, je suis remontée en personne, je l'ai vu en vrai, j'ai reçu le virement Interac sur mon téléphone, fine, je lui donne le téléphone, je rentre chez nous, la vie est belle, j'ai vendu mon sel. Puis là, deux, trois jours après, la banque qui m'appelle en disant qu'il y a eu un dépôt frauduleux à mon compte. Et ce qui est arrivé, c'est que le fraudeur, la personne à qui j'ai vendu mon téléphone, en fait, lui, il a envoyé bel et bien un virement Interac, mais pas de son compte bancaire à lui, du compte bancaire de quelqu'un d'autre qui n'a pas demandé son autorisation. Bien sûr. Et là, c'est compliqué avec les banques parce que là, c'est à toi de prouver que c'est pas toi qui as fraudé le pauvre petit client de l'autre bout. qui a envoyé le virement Interreg. Donc là, tu te retrouves voilà, dans des démarches pénibles, en plus d'avoir donné gracieusement ton téléphone que tu n'as plus en ta possession. Est-ce que tu en connais d'autres? Il y en a d'autres qui te viennent en tête, peut-être des stratagèmes de fraude par virement Interreg, des choses que tu aurais vues passer récemment?
Moi, j'en ai pas vu de ce genre-là, mais tu mentionnes que la responsabilité sur les bancaires est très différente de la responsabilité avec carte de crédit. Puis ça, c'est dans la psyché des gens, c'est une chose qu'il faudrait changer puisque le contrat qu'on a avec une carte de crédit, justement, limite notre responsabilité généralement à 50 $. Puis généralement, les compagnies de carte de crédit vont carrément lever la responsabilité au complet. Donc, on n'a pas de frais à payer sur la fraude. La raison de ça, c'est que c'est le commerçant qui mange le coût, pas le consommateur. Dans un cas bancaire, on n'est plus dans le même univers, donc on n'est pas dans un contexte où la banque ou l'institution peut aller rechercher l'argent qui a été fait. Donc, c'est la banque qui mange le coût, ça, c'est pas le commerçant. Donc, la responsabilité n'est pas à la même place. C'est pour ça que c'est plus difficile de démontrer que c'est pas toi qui es participant à la dite fraude, dans le cas que tu mentionnes, mais non, ça, c'est beaucoup moins agréable. C'est plus frisqué comme relation qu'autrement, là. Mais non, moi, j'ai pas été confronté à ce genre de choses-là, puis j'ai pas personne dans mon entourage qui a été confronté à ce type de fraude ou des fraudes de transfert de cette nature-là. Moi, j'ai plus vu des demandes de type là, Hydro-Québec, agence du revenu qui veulent me rembourser, puis finalement, dans les faits, ils veulent pas me rembourser, le fraudeur veut extraire de l'argent, là, mais c'est les seuls que j'ai vraiment vus dans les derniers mois, là.
T'as raison d'insister sur la notion bancaire, justement, puis toute la responsabilité là-dedans. Si la banque n'a aucune responsabilité dans la fraude, c'est pas, le fraudeur n'a pas appelé en succursale ou c'est pas présenté ou qu'il y a eu un manque de diligence de la part d'un conseiller à l'interne de la banque, généralement, la responsabilité revient au client. Puis je vais vous donner un exemple tantôt très, très sournois de fraude où est-ce que justement les gens restent pris avec des sommes d'argent fraudées énormes et très peu de pouvoir. Mais avant ça aussi, on a tous signé, au moment d'ouvrir nos comptes bancaires, on a tous signé un papier ou peu importe les télécrans conditions qu'on ne lit jamais, mais qui dit que si on a une transaction frauduleuse qui passe à notre compte, on a un certain délai pour la déclarer. Ce délai est de 30 jours pour les particuliers, pour les comptes particuliers, et de 45 jours pour les comptes entreprises. Et tu vois, j'ai déjà expérimenté à la banque un client qui s'est fait frauder plusieurs chèques, mais tu sais, c'est une personne qui ne regardait jamais ses relevés bancaires et qu'un jour, elle les a regardés. Puis là, il s'est rendu compte que 12 mois en arrière, il y avait des chèques qui étaient passés, des sous qui étaient sortis de son compte. Puis là, c'était la panique et à raison. Mais les conditions disent que bah, tu peux faire des réclamations pour les 30 derniers jours, pour le relevé en cours, en fait. Mais hors de ce délai, le délai est dépassé et la banque n'a plus aucune raison et plus aucune obligation de rembourser à ce moment-là. Donc ça aussi, on oublie, mais important de regarder vos relevés mensuellement, quand même de faire un petit check-up de temps en temps. Une nouvelle fonctionnalité, je vous disais, qui existe en termes de virement Interreg, et bon, vous vous en doutez, nouvelle fonctionnalité rime toujours avec nouvelle opportunité pour les fraudeurs. Il s'agit de la demande de transfert de fonds. Je t'en parlais un petit peu en off, Nicolas Loïc, tantôt. Donc, c'est maintenant possible d'envoyer une notification par courriel à quelqu'un ou par SMS, pas pour envoyer des sous, mais pour demander l'envoi de sous, donc pour demander un transfert d'argent. Puis c'est vraiment particulier parce que le courriel de notification, le texto, est semblable. Et vraiment, c'est un copier-coller pareil que celui quand on envoie de l'argent. Alors, lisez bien avant de cliquer sur le lien et d'envoyer des fonds au lieu de les recevoir. J'ai des histoires d'horreur à la banque aussi avec ce type d'arnaque. Je vous donne un exemple. Je suis une entrepreneur, j'offre mes services de coaching, par exemple. Je reçois le courriel Interreg d'un client. Je m'attends instinctivement, quand je reçois ce message, je m'attends instinctivement à recevoir mes honoraires, à recevoir mes sous. Je reçois le courriel. Je clique sur le lien, je complète les étapes. Donc, hop, je clique sur ma banque, je me connecte et tout. Puis, le virement Interreg ne semble pas avoir fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je contacte mon client pour dire bonjour, je ne comprends pas, votre virement Interreg ne semble pas avoir fonctionné. Puis, il me dit, oh, pas de problème, je vous renvoie une notification. Deuxième notification, toujours rien. Et là, il se trouve que j'ai pas reçu mes honoraires de 100 $ comme supposé, mais j'ai envoyé $200 au fraudeur parce que je l'ai fait deux fois en plus. Donc, c'est vraiment pas chouette. C'est vraiment dommage dans l'architecture, mais dans la façon dont t'es rédigé le courriel, que c'est vraiment un copier-coller, puis que c'est vraiment deux, trois mots qui changent pour vrai. Prenez le réflexe de bien lire. Prenez pas pour acquis qu'il s'agit de fonds à déposer sur votre compte. Ça peut être des demandes aussi de transfert. Comment ça te fait réagir, ça, cette nouveauté?
Oui, ben, là, ça, c'est un problème que des banques que je trouve, puisque les automatismes qu'on développe, là, puis je suis un humain comme les autres, là, dire même sur mon téléphone, je mémorise pas. Je mémorise où sont mes icônes, je regarde même pas, je cherche pas à chaque fois. Fait que tout se fait par automatisme. Donc, si je reçois un courriel qui ressemble à un transfert, mais qui n'est pas un transfert, c'est très probable que je vais tomber dans le piège si c'est pas suffisamment clairement mentionné que c'est pas un transfert à mon avantage. En ce cas-ci, c'est moi qui balance l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, il y aurait peut-être un effort à faire de la part des institutions bancaires de rendre ça plus clair, cette différence-là, de la direction où l'argent se dirige, justement pour qu'on puisse avoir une décision éclairée. Puis c'est là où il faut comprendre comment l'humain fonctionne et comment justement éviter que l'humain tombe dans des pièges, que le volet cognitif qui est associé à ce genre de choses-là, je pense qu'il y a un petit chose, je vais être plus prudent à l'avenir parce que j'étais pas au courant de ces manœuvres-là. Fait que, si ça m'arrive, je serai davantage conscientisé.
Exact. Et puis, on revient beaucoup à la psychologie humaine. Ça pourrait être aussi bête que juste de changer la couleur. C'est des choses qu'au moins visuellement, notre cerveau n'associe pas automatiquement. C'est vraiment un excellent point, ce que tu amènes, l'automatisme. Puis c'est vrai, c'est tellement vrai. Une autre chose dont je voulais parler, un autre type de fraude dont je voulais parler qui implique des sous aussi, parce que vous êtes probablement familier avec la fraude du président, fraude au président qui, oui, va avoir un transfert de fonds ou un transfert d'informations. On commence à être quand même relativement pas familier, mais en tout cas, on entend un petit peu plus parler. Par contre, la fraude du fournisseur, c'est un peu plus complexe, un peu plus sournois. Et je voudrais justement prendre le temps de vous l'expliquer, puis expliquer les conséquences que ça peut amener aussi. Déjà, rapidement, comme ça, fraude du fournisseur, est-ce que ça te dit quelque chose, Loïc?
Pas spécifiquement, je connais très bien celle du président, et je vais te laisser expliquer la subtilité de celle-là.
Ouais, tu vas voir, c'est assez particulier, c'est des choses auxquelles on pense pas, et tu vas voir, encore une fois, que c'est encore l'automatisme et les habitudes qu'on a en tant qu'humain qui nous font avoir confiance en une communication qu'on reçoit sans faire plus de vérification. Donc, on a un fraudeur qui pirate la boîte courriel d'un fournisseur. Peu importe lequel, je voudrais donner un petit exemple plus concret, plus imagé aussi tantôt. Donc, il pirate la boîte courriel d'un fournisseur et il va communiquer au client de ce fournisseur des nouvelles données, des nouvelles coordonnées bancaires pour les prochains paiements de factures. Je vous donne un exemple. J'œuvre dans le domaine de la construction. C'est l'exemple que je donne souvent parce que c'est un petit clin d'œil au domaine de la construction qui va vite en ce moment. J'œuvre dans le domaine de la construction. Je reçois un courriel de mon fournisseur en bois qui s'appelle Bois pour tous. Et là, dans son courriel, il m'informe qu'il a changé ses coordonnées bancaires, il a changé de compte bancaire, ils sont en restructuration, peu importe à l'interne, il change de compte bancaire et il me fournit de nouvelles coordonnées bancaires pour mon prochain paiement qui est dû dans quelques jours. Donc moi, qu'est-ce que je fais? On a écouté les podcasts de Polysécure, donc on sait qu'il faut valider l'adresse courriel, on sait qu'il faut regarder au niveau de l'adresse courriel, oui, au niveau est-ce que c'est la même signature que d'habitude. Donc là, je fais toutes ces petites vérifications-là comme d'habitude et il s'agit bien de la même adresse courriel, il s'agit bien de la même signature, tout est vraiment, vraiment pareil. Par contre, ce que je sais pas, c'est que mon fournisseur s'est fait pirater. C'est normal que c'est la même adresse courriel parce que c'est le fraudeur qui est dedans, c'est le fraudeur qui est à l'intérieur. Donc, la boîte courriel de Bois pour tous a été piratée et c'est pas la secrétaire qui m'envoie ce courriel comme d'habitude, ça va être le fraudeur. Moi, je le sais pas. J'ai effectué les modifications, j'envoie mon paiement. Résultat, le paiement n'est jamais versé à mon fournisseur. Les fonds ont été envoyés directement vers le compte bancaire du fraudeur. Donc, on se retrouve là avec ce que j'appelle une double victimisation. On a le client qui a envoyé de l'argent au mauvais destinataire et le fournisseur qui n'a jamais été payé pour ses matériaux qu'il a envoyés ou pour les services qu'il a rendus. Et vous l'aurez compris, encore une fois, le facteur humain est déterminant. Et là, je ne vous raconte même pas le bazar que ça amène à la banque. Moi, j'en ai traité, j'en ai eu plusieurs fois des dossiers comme ça sur mon bureau à l'époque. Et si la banque n'a n'est intervenu à aucun moment. Si c'est simplement le client, avec ses petits doigts, qui s'est connecté en ligne à son compte, qui a effectué avec sa souris les modifications, et que la banque n'est aucunement intervenue, mais la banque se déresponsabilise et la banque dit non, on n'a pas de responsabilité dans la transaction frauduleuse, on ne rembourse pas. Donc là, imagine quand tu as envoyé un 25, 30 000, puis que là, c'est juste out de tes caisses. C'est impressionnant. On parle bon, du rançongiciel et tout, oui, qui fait beaucoup de dommages, mais ça peut vite fait faire un méga trou dans un budget d'une entreprise, d'une petite entreprise aussi. Maintenant que c'est un petit peu plus illustré, qu'est-ce que tu en penses? Je vais vous donner quand même comment se protéger, parce que là, je vous pitch ça, mais je vais vous donner des cues après. Mais qu'est-ce que tu en penses? À quoi ça te fait penser?
Ben, ça me fait penser, de toute façon, les fraudeurs n'arrêteront pas à trouver les moyens pour réussir à nous tromper. C'est sûr que dans ce cas-ci, c'est un peu comme la fraude du président, là. Tu sais, il y a beaucoup d'informations qui sont en amont. Il y a un peu plus de travail que le rançongiciel conventionnel. C'est probablement pour ça qu'on en entend moins parler parce que c'est un peu plus ciblé. Parce que justement, là, on fait face à des malveillants beaucoup plus organisés et beaucoup plus éveillés à ces éléments-là. Puis là, c'est là où j'ai un peu, je comprends l'absence de responsabilité de l'institution bancaire parce que bon, c'est ce que c'est. C'est un geste volontaire d'un individu qui s'est fait avoir. Bon, rendu là, la banque n'est pas tant responsable. Mais venant d'un monde de cybersécurité dans lequel on fait beaucoup d'analyses, puis même que les banques ont beaucoup d'outils d'analyse de fraude, on regarde au niveau des cartes de crédit, je crois qu'au-delà de l'absence de responsabilité qui est vraie légalement, il devrait quand même être actif au niveau de détecter ce genre de choses-là. Peut-être pas une obligation de résultat, mais au minimum de pouvoir appuyer leurs clients. Puis justement, ça c'est un compte qu'on a observé qui était potentiellement frauduleux. Donc, on met un stop, on avertit le client, on l'informe. Fait qu'on, je pense qu'au moins, de façon bienveillante, les institutions financières devraient avoir une approche comme celui-là. C'est très difficile ensuite de savoir que, tu sais, je veux dire, là, on fait face à... On a l'impression que c'est la vraie personne au bout de la ligne, au bout de l'écran dans ce cas-ci, qui nous informe des bonnes informations. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va être présomptueux, tu sais, généralement, on s'interroge pas très énormément sur ce genre de choses-là, surtout si le malveillant a vraiment pris la peine de prendre un ton similaire des courriels qui sont échangés normalement avec ce genre de choses-là. Mais encore là, faut être éveillé s'il y a des symboles qui sont différents. Si on n'a pas l'habitude de communiquer par courriel avec ce fournisseur-là, ben là, c'est peut-être un signe de voir. Je ne vais pas t'enlever tout l'ensemble des conseils que tu as donnés. Fait que je vais te repasser la balle là-dessus.
Avec plaisir. Et puis, mais c'est intéressant ce que tu amènes aussi d'avoir quand même un certain encadrement. Je pense que ça s'en vient au niveau bancaire. C'est juste toujours très long et procédural et les stratagèmes évoluent aussi tellement rapidement. Mais je tiens à rassurer, par contre, quelque chose que je n'ai pas mentionné, rassurer nos auditeurs sur le fait que la banque ne rembourse pas généralement, mais elle ne va pas se laver les mains non plus en disant débrouille-toi. Tu sais, on a quand même tout un travail, nous, en tant qu'analystes, pour essayer d'arrêter le transfert. Donc, c'est sûr qu'on va entreprendre des démarches pour arrêter le transfert, le bloquer s'il est chez un correspondant bancaire, de le bloquer là aussi, de mettre un. Tu sais, même si on ne rembourse pas le client en bout de ligne, on va quand même faire tout notre possible pour essayer de récupérer les fonds. Après, si malheureusement les fonds sont déjà arrivés à destination et qu'ils ont déjà été retirés par le fraudeur, là on ne peut plus rien, malheureusement. Mais s'ils sont encore dans le compte et qu'on a réussi assez rapidement à contacter la banque qui les a reçus, dire on met un blocus, on vous envoie une lettre d'indemnité, il faut nous les renvoyer parce que c'est de la fraude, ben là on arrive à les récupérer et à ce moment-là on rembourse, on redonne son argent au client à ce moment-là. Donc, ça m'est déjà arrivé, pour vrai, d'arriver à bloquer les sous à temps. Mais là, il faut aller vraiment très, très vite, hein, parce qu'en quelques heures, c'est fait. Ça m'est déjà arrivé même après un certain temps, les sous étaient encore là. Donc, je ne sais pas ce que le fraudeur il a fait, mais il n'était pas très tenté à récupérer les sous. Ou bien de pouvoir récupérer un montant même partiel. Mais même récupérer un 10 000 sur un 30 000, ben, c'est toujours un 10 000 récupéré. Donc, on ne laisse pas les gens comme ça. On fait tout de notre possible de notre côté, au moins pour pouvoir récupérer ça. Moi, ma proposition, quelle est-elle? Comment se protéger de ce stratagème? Je suis le client, je reçois un avis de modification des données, des coordonnées bancaires. Qu'est-ce que je fais? Moi, personnellement, ma proposition, elle est très simple. Je ne fais aucun changement. ça peut paraître bizarre comme ça, mais si on regarde, faire aucun changement, il y a deux possibilités. Si je fais le paiement sur le compte que je connais déjà, soit les fonds vont revenir chez moi parce que le compte est fermé. Fait que, bon, bah, ça veut dire, ah, bah, ok, c'est vrai, le compte est vraiment fermé pour vrai. Donc, première possibilité, les sous vont revenir chez moi si j'envoie sur le compte que je connais déjà parce qu'il est fermé. Ou alors, peut-être que je ne vais plus en entendre parler parce que le fournisseur, lui, il a assuré le transfert entre son ancien compte et son nouveau compte. Il a assuré un certain transfert. Et à ce moment-là, ça viendra confirmer que la demande de changement de compte était légitime à ce moment-là. Dans le doute, je peux aussi toujours contacter mon fournisseur par téléphone, privilégier toujours de contacter par un autre moyen de communication. Et puis, oui, appeler le numéro de téléphone qu'on connaît. Peut-être pas aller appeler le numéro dans la signature du courriel frauduleux, hein, parce que ce serait dommage de contacter directement notre fraudeur par téléphone, puis qu'il nous rassure sur son propre stratagème, n'est-ce pas? Mais d'utiliser vraiment un numéro qu'on connaît ou d'aller faire une petite recherche sur Internet pour être sûr d'appeler le numéro de téléphone légitime du fournisseur. Donc, ce seraient mes deux propositions. Communiquer par un autre moyen de communication ou ne faire aucun changement. Et à l'inverse, justement, je formais une entreprise dernièrement et je leur donnais cette recommandation-là et ils me disaient « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si nous, on change pour vrai de coordonnées bancaires? Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que là, si on envoie les nouvelles coordonnées bancaires aux gens, ils vont avoir écouté ta formation, et puis personne ne va nous payer, enfin, on recevra pas les sous. Donc à ce moment-là, si vous êtes à l'origine d'un changement de compte pour une restructuration, peu importe, à ce moment-là, peut-être contacter vos clients par téléphone, envoyer l'information, mais quand même faire un suivi, pas juste envoyer le pitch, le courriel, mais peut-être faire un suivi, ça vaut la peine peut-être prendre le téléphone pour appeler les fournisseurs, pour les clients plutôt, pour les aviser. Ça serait ma petite recommandation, qu'en penses-tu?
Oui, mais tout dépendant des compagnies, ça peut être une tâche qui est quand même assez ardue. Oui. Si on a beaucoup de clients ou de fournisseurs qu'on utilise cette avenue-là, ça peut être très lourd comme chemin. Cependant, oui, le courriel peut demeurer, mais en prenant des stratégies de communication qui sont pas dans l'urgence, d'avertir plusieurs mois d'avance, d'informer les choses. Donc, dès qu'on arrive dans des moments comme ça, un fraudeur, lui, est pressé par définition. Fait que lui, il avertira pas 6 mois d'avance que le compte va changer. Et donc, d'informer justement nos partenaires d'affaires que ça s'en vient. Une première communication, dans 6 mois, on va changer, on fait des modifications bancaires, 3 mois, faire un autre appel en 3 mois, faire une autre, justement pour atténuer la charge de travail. Puis les gens, justement, qui auront suivi, vont soit appeler eux-mêmes ou vont voir dans la démarche que le chemin, il est beaucoup plus doux. Donc, à ce moment-là, qu'on ne voit pas l'urgence, donc on est déjà plus rassuré. Puis c'est ça qui est contre-intuitif parce qu'on est habitué de réagir à l'urgence. Puis même de façon opérationnelle, on parlait de réflexe plus tôt. La personne qui va recevoir le courriel juste par réflexe opérationnel, elle va l'exécuter sans même se poser de questions. Puis c'est encore là à quel moment on doit se poser des questions, puis quel effort qu'on doit mettre dans les questions qu'on se pose justement pour arriver à quelque chose à ce moment-là, justement pour se prémunir et de pas, surtout c'est notre argent qu'on envoie ailleurs. Là, c'est d'autant plus important que de s'assurer qu'on l'envoie à la bonne place. Puis d'ailleurs, si on parle de responsabilité, quand on fait un transfert personnel par Interac ou direct, dans les éléments financiers, il y a toujours une coche. Je dis, est-ce que je suis vraiment assuré d'envoyer ça à la bonne personne? Fait que c'est pas de la cocher aveuglément. Ça veut vraiment dire, je prends la responsabilité d'envoyer l'argent à cet endroit-là. Donc, c'est un rappel que ça demeure ma responsabilité de faire la vérification de qui va avec ce chemin-là. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation. Puis, tu sais, on parle de moyens plus lents. Les fraudeurs vont finir par probablement s'y adapter à un moment donné. Puis, eux-mêmes développer des stratagèmes qui ont l'air plus légitimes. Fait que c'est toujours une espèce de course entre tout le monde. Puis, même dans les cas les plus spectaculaires de fraude du président, par exemple, ils ont imité la voix. Parce que maintenant, on est capable de faire du deepfake. On est capable d'imiter la voix. Fait qu'on est capable de tromper les gens, même par des appels téléphoniques maintenant. Fait que même encore là, on est dans un univers qui, en pleine transformation. Là, je vais faire une petite plug parce qu'au Secure, on a un conférencier qui vient justement aborder le volet de la reconnaissance vocale pour ce genre d'éléments-là, pour lutter la fraude. Donc, il y a des éléments très intéressants dans celle-ci. Fait que si vous avez la chance en vrai, sinon en virtuel, il y aura la possibilité d'écouter cette conférence-là qui est particulièrement intéressante sur ce sujet-là, où justement, qui vient désamorcer un volet biométrique qu'on utilise parce que l'humain est quand même une machine biométrique parce qu'on reconnaît la voix. Dès qu'on reconnaît la voix, on va déverrouiller puis notre défense descend. Fait que aussi, ça aussi, il faut être vigilant. L'initiation, dans quelle direction? Tu parles du numéro de téléphone, d'appeler le numéro de téléphone de l'endroit. Si je me fais solliciter, par exemple, par l'agence du revenu, je donne pas les informations. Je dis, OK, je vais vous rappeler au numéro qui est sur votre site web. Je retourne au bord. Fait que c'est de toujours mettre, c'est moi qui ai le pouvoir d'aller là, puis de se donner ce pouvoir-là, d'agir et non de se laisser transporter par l'histoire du malveillant.
Exact, exact. J'ai très hâte à cette conférence, ma foi, parce que c'est tellement le futur, la voix et toute la manipulation qu'il peut y avoir. Justement, j'ai publié dernièrement sur les réseaux sociaux, je déconseille aux gens, quand ils prennent le téléphone, de répondre par « oui ». Parce que généralement, c'est un mot qui peut servir à dire oui dans d'autres situations, qui peut être enregistré, qui peut être servi de... En tout cas, je trouve ça très, très, très intéressant. C'était les idées que je voulais nous amener pour aujourd'hui. J'espère que, d'une certaine façon, ben, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des sous dans nos poches et pas dans la poche des autres, n'est-ce pas, déjà en partant. Mais de vous sensibiliser au fait aussi que les banques ne remboursent pas dans toutes les situations. Je pense que ça, c'était vraiment l'élément que je voulais le plus faire ressortir parce que généralement, les gens me disent « Ah, c'est génial ce que tu fais, Emeline. Tu sais, former les gens et sensibilisation, c'est cool. » Je dis « Ouais, mais c'est la population en général. Généralement, ils ne se sentent pas super impliqués par leurs propres données, par leurs propres choses. Ah bon, pourquoi ? Parce que justement, on a la fausse croyance que la banque va nous rembourser anyway. Et ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, les petites choses qu'on coche en dessous des virements Interact, c'est qu'on récupère notre propre responsabilité. Et à ce moment-là, c'est nous et uniquement nous qui en payons les conséquences. Donc, d'avoir toujours le fameux petit pas de recul.
C'est ça, d'avoir cette vigilance-là qui nous permet justement d'avoir de se réapproprier ce pouvoir-là qui est le nôtre, justement, d'éléments comme ça. Là, on a, je pense, une tendance à se déresponsabiliser. C'est peut-être un peu ça au niveau... les cas de crise ont amené cette conception-là de déresponsabilisation du consommateur versus ce commerçant. Parce que c'est le commerçant qui mange le coup dans ce cas-ci. Il faut toujours se rappeler, les institutions financières sont là pour transférer l'argent. Ils ne prendront pas la responsabilité. Même Visa ne prend pas la responsabilité. C'est pas Visa qui perd pas d'argent. C'est pas eux qui se remboursent. C'est toujours comme ça. Fait que si une institution bancaire n'est pas capable de récupérer l'argent, nous remboursera pas parce que c'est pas ça. À la limite, avoir des assurances, si vous êtes une compagnie, prenez-vous des assurances qui couvrent ce genre de choses-là. Ça peut toujours, parce que plus la compagnie est grande, plus c'est difficile de contrôler chaque personne qui est dans l'ensemble du processus. Ça fait qu'une assurance permet justement de limiter les dommages. Puis on parle de 25 000 $ qui disparaît de mon compte de banque. Si ça m'arrive, je vais être très peiné, moi, si j'ai 25 000 $ que j'ai envoyé dans les poches de quelqu'un qui m'a fraudé. Là. Fait que ça va me faire très mal professionnellement puisque je suis une TPE. Puis pour les autres TPE, on a dans le même environnement que ça. Puis il y en a quand même pour des marges beaucoup plus petites que les miennes, donc sont beaucoup plus fragiles à ce genre de choses-là. Fait que ça peut vraiment les mettre même en faillite. Fait que c'est d'être très, très prudent. Peut-être une petite assurance peut justement vous aider à vous prémunir d'un cas où vous ayez tombé, parce qu'on n'est pas infaillible. On a succombé à une fraude.
Et oui, c'est toujours l'idée. Et que vous nous donnerez des nouvelles de cet épisode-là. Vous nous direz s'il y a des petites choses que vous remarquez un petit peu plus. Il y a des nouveaux stratagèmes en lien avec les virements Interac et les virements que vous voyez passer parce que ça va vite. Les fraudeurs sont des entrepreneurs eux aussi. Ils sont très, très créatifs. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le micro avec toi, Nicolas Loïc.
Également, puis c'est des sujets qui sont fort intéressants, puis j'espère qu'ils vont faire du chemin chez la population en général. C'est un peu un message aux entrepreneurs qui nous écoutent. Parlez-en à vos familles, parlez-en aux autres, plus on propage le message de ce genre de choses-là, ben on évite d'enrichir les fraudeurs, puis on se protège tous collectivement. Là. C'est un peu comme l'immunité collective. Plus on est capable de se défendre, plus on réduit la capacité des fraudeurs à venir nous chercher individuellement. Là.
Exact.
mais merci énormément. Fait que bon mois parce qu'on va se reparle d'ici un mois.
Merci, bonne journée.